Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux. Oui, c'est vrai, nous sommes des églises voisines en fait. C'est à peine 500 mètres de distance. Toi, tu es descendu à la plaine et moi, je suis monté au sommet de la ville de Genève. Et nous pouvons nous bénir réciproquement. Je pense que Dieu, il a ça dans son dessein pour les églises de Genève. Que quelque chose aussi... Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va partir de cette église de... Oui, de l'oratoire, qu'une bénédiction forte, puissante, un flot de bénédiction partira de cette église. Peut-être qu'il y a même des personnes qui partiront pour servir dans d'autres endroits, dans d'autres lieux. Que Dieu puisse confirmer cela. En tout cas, les premiers membres du peuple de Dieu, à partir de Abraham, Isaac, Jacob, étaient des migrants. Ils étaient tout le temps en route. Ils bougeaient. Et j'aimerais vous emmener dans cette histoire d'un patriarche, du patriarche de Jacob, parce que bon, ce sont des prédications que je fais, des réflexions que je m'étais faites ces derniers temps sur ce patriarche-là. Et je vous emmène un peu dans cette histoire avec Jacob. Peut-être on peut avoir le PowerPoint, si c'est possible, tant mieux, sinon... Waouh. Non mais, ça aurait marché sans... Nous avons toujours la parole qui est avec nous. Alors je vous mets dans le décor. Il fait lourd. Il fait lourd ce matin-là. Lourd dehors. Lourd dans les cœurs. Jacob se lève le matin pour voir un peu son campement. Il regarde les tentes, il regarde, oui, où sont les uns les autres. Et il, un peu plus loin, se trouve la ville de Sichem, ou plutôt les décombres de Sichem. Parce que les fils de Jacob ont tué tous les habitants de cette ville dans une action de vengeance. C'est vrai? Ils avaient peut-être une raison pour être en colère, mais c'était un massacre. Ensuite, tous les enfants de Jacob, il en avait 12, ont participé au pillage de cette ville. Et ce matin-là, Jacob se tient près de son campement avec une profonde déception et un immense découragement. Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi mes enfants sont-ils si rebelles? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelle est ma part dans tout ça, dans ce carnage? Oui, parfois le passé pèse lourd pour Jacob, mais c'est pareil pour nous. Si j'étais, et une profonde léthargie s'empare de nous. Profonde léthargie. Vous connaissez ça, peut-être? Moi, j'ai eu un tel sentiment au début de l'été quand j'ai appris que mon fils, il n'a pas passé son année scolaire. Je dis, bon, on a tout fait, quoi. On a essayé, on a bossé. Bah, une sorte de léthargie. Mais je pense que là, c'était encore autrement, parce qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé. Et dans ce silence de mort, dans cette ambiance plombée, tombe la parole de Dieu. Parole puissante, parole vivifiante, parole qui donne orientation, parole qui ouvre un chemin. Et c'est de cela que je veux parler. Lisons ce passage dans Genèse chapitre 35, les premiers 9 versets. Voilà. On peut aussi l'afficher. Voilà. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel à Dieu » qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Détail intéressant, leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on a appelé du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée à Padam Aram et il le bénit. Quand je lis la parole de Dieu, la Bible, et spécialement l'Ancien Testament, j'aimerais bien donner quelques astuces aussi, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne lisent déjà pas la Bible, ils ont du mal peut-être aussi avec ces textes, avec ce langage, et particulièrement les textes de l'Ancien Testament nécessitent une attention particulière. Donc avant de rentrer dans les spécificités de cette histoire, et aussi de vous partager vraiment l'essentiel de ce qu'on vient de lire, je me permets de vous donner un petit manuel peut-être, une manière comment moi je fais avec ces textes qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Donc tout d'abord, je lis le texte dans son contexte. On ne peut pas comprendre le chapitre 34 si on a le chapitre 35 sans avoir lu le chapitre 34. Cette histoire de la destruction d'une ville, cette histoire d'une action de vengeance où les enfants de Jacob, ils ont vraiment mal agi, ils se sont vengés d'une façon terrible. Et c'est pour cela qu'on comprend ici pourquoi il y a besoin de se lever, besoin de se purifier. Le chapitre 34 précède le chapitre 35. Parfois, nous prenons des paroles de Dieu, des versets de la Bible d'une façon isolée et nous les plaquons sur une situation. Des fois, ça colle, mais bon, des fois, pas trop. Ensuite, je cherche toujours, je vous encourage aussi à toujours chercher quels sont les parallèles, les liens que je peux faire avec le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a dans un tel texte est-ce qu'il y a la grâce? Est-ce qu'il y a le pardon? Est-ce qu'il y a aussi des symboles? Est-ce qu'il y a le Christ préfiguré? Parce que le Christ est souvent présent d'une façon cachée, même dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le trouver, chercher, fouiller ces textes. Je vous encourage, ça va modifier, ça va révolutionner votre façon de lire la Bible. Nous allons voir s'il y a la grâce dans ce texte. Allons voir tout à l'heure. Puis il y a aussi parfois des points vraiment difficiles, des pierres d'achoppement, vraiment le texte peut nous heurter. Il y a des choses incompréhensibles à nos yeux, vraiment difficiles. On bute sur quelque chose, comme ici au verset 5, quand il est écrit que la terreur de Dieu se répandit. Et ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Dieu, il est amour. Comment est-ce qu'il peut être terrible? Est-ce qu'il est maintenant amour ou est-ce qu'il est terrible? On va peut-être mettre une petite lumière là-dessus, mais je vous laisse pour l'instant avec cette question, cogitant. Mais je l'ai mis là-dessus parce que parfois le texte nous heurte, parfois nous disons « mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi Dieu permet ou pourquoi Dieu ordonne-t-il même certaines choses ?» Moi, je pense que c'est bien que des fois, oui, nous laissons le texte tel qu'il est et nous acceptons aussi qu'il est son côté brut, je veux dire, et pas toujours vouloir le lisser et enlever ce qui est difficile. Je pense que c'est bien de le laisser tel qu'il est et de dire, bon, j'ai une question, mais peut-être je trouverai une réponse plus tard. Donc, je propose maintenant de prendre ce texte et d'aller un peu de le parcourir, voilà, je suggère une balade à travers ce texte, de retirer aussi pour ce qui est essentiel, ce qui pourrait être essentiel pour nous. Verset 1, lève-toi. Au plus profond de l'abattement, comme je disais, au plus profond de cette léthargie, tombe cette parole de Dieu. Elle intervient carrément. J'aime bien cela. La parole de Dieu intervient. C'est-à-dire elle nous coupe dans une situation ou dans une manière de faire et elle intervient. Lève-toi, Jacob, ne reste pas ici, bouge. C'est merveilleux, cette pédagogie de Dieu. Et c'est un principe éternel, je dirais. Comment Dieu il agit avec les humains. C'est même ici le principe de la grâce de Dieu. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui nous fait sortir à nouveau à la lumière. Oui, vous avez mal agi. Oui, vous avez commis ce massacre. Rien n'était bon dans tout cela. Les innocents sont morts. Mais je suis Dieu. Je t'ai choisi, Jacob. C'est pas toi qui m'as choisi. Lève-toi maintenant. Comme il est écrit aussi, lève-toi, réveille-toi qui dors. Lève-toi, église de l'oratoire. Alléluia. Déjà à Abraham, Dieu disait la même chose. Il lui disait quand il... Vous vous souvenez peut-être qu'il avait ce clash avec Lot, quand ils se sont battus avec les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham se sont battus autour des puits et ils se sont séparés. C'était vraiment aussi une situation désagréable, un désemparé. Et au chapitre 13, verset 17, nous pouvons lire ce que Dieu disait aussi à Abraham déjà. « Lève-toi, parcours le pays en large et en long, car je te le donnerai. » Notre infidélité, notre péché passé ou présent n'empêche pas Dieu d'agir. Voilà ce que je voulais dire en premier. N'empêche pas Dieu d'agir et d'accomplir son plan. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, peut-être la défaite qui te colle encore un peu au dos, le Seigneur, il te dit, vas-y, lève-toi. Il le dit aussi à l'église de l'oratoire, vas-y, lève-toi, il y a quelque chose pour toi. Amen. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui te le dit. Ne donnons pas au passé un pouvoir qu'il ne l'a pas. C'est le Seigneur qui dit, lève-toi maintenant. Tu as traîné suffisamment longtemps à Sichem. Va. Et puis au verset 1b, c'est la suite en fait. Où est-ce qu'il doit aller? Ça aussi c'est significatif. Où devait-il aller? Il devait aller à Bethel. Pourquoi Bethel? Le texte aussi nous le rappelle un peu. Parce que, souviens-toi Jacob, là-bas, quand tu étais en fuite devant ton frère, quand tu es parti avec rien du tout qu'un bâton dans la main, tu étais un fugitif, tu étais un réfugié, tu n'avais rien, tu fuyais. J'étais là, moi l'Éternel, j'étais là. Je t'ai apparu. Tu te souviens. Et je t'ai fait cette promesse que je serai partout. Pendant tout le voyage, je serai avec toi et tu reviendras ici. Le mot apparaître, le mot je t'ai apparu est très important dans ce texte. On pourrait faire des petites statistiques, mais il apparaît deux fois ici. Et puis il y a aussi le mot révélation. Dieu lui-même, dans son amour, se révèle et il sait à quel point nous avons besoin d'un signe clair de sa présence. Je m'étais posé la question, comment je peux faire pour avoir une révélation de Dieu? On aurait tellement besoin de ça, n'est-ce pas? On voudrait aussi, des fois dans les cultes maintenant, voilà, une révélation de Dieu. Un signe clair, une présence. Comment je peux faire ça? Vous savez comment on peut faire ça? On peut prier, on peut faire un tas de choses, mais finalement, on ne peut pas le faire. C'est ça. Si on pouvait organiser ici une petite vidéoconférence avec le ciel, en live, je vous le ferais, mais je ne peux pas le faire. Mais n'allons pas trop vite quand même. Je pense que la réponse est dans ces lignes. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu ou mettre Dieu dans notre poche et et avoir une révélation à commande ou sur commande. Je retiens juste, Dieu lui dit, monte à Bethel et habite-y. Fais de Bethel ton lieu d'habitation. En fait, c'est comme s'il voulait dire, qu'est-ce que tu fais à Sichem, Jacob? Pourquoi tu es encore ici? Qu'est-ce que tu as perdu en ce lieu? Bethel et pas ailleurs. Bethel, c'est le retour aux sources. Si tu veux boire de l'eau pure, il ne faut pas la boire à l'embouchure de la rivière, mais il faut remonter jusqu'à la source, mon frère, ma sœur. Parfois, nous n'avons pas de vision de Dieu, pas de révélation, parce que nous sommes à Sichem et pas à Bethel. Sichem, c'est le lieu du commerce. Parce que c'est là-bas qu'ils ont commencé à convoiter les choses que les Sichémites possédaient. Et Dina, fille de Jacob, s'est promenée à Sichem et il y a eu cette vilaine histoire, un viol et puis après le massacre. Sichem, c'est le lieu du commerce. Et le chef du village a même proposé à Jacob, tiens, on fait des échanges commerciaux. Sichem, lieu du commerce. Bethel, c'est quoi comme lieu? Ça s'appelle maison de Dieu, oui, Bethel. C'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu où Dieu est apparu et Jacob, à cette époque-là, quand il fuyait devant son frère, il a érigé une stèle et il a adoré Dieu. Et ici aussi, il dit, nous montons à Bethel et nous allons y faire adoration. Nous allons adorer. Ça me fait penser au psaume 84 qui dit « Mieux vaut un jour dans ta maison que mille ailleurs. » Et j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la porte, enfin sur le seuil de la maison de Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. C'est un peu le langage de l'Ancien Testament. Nous n'habitons plus dans les tentes, mais nous habitons quelque part, nous avons des lieux de prédilection. Quel est votre lieu de prédilection? Sichem ou le lieu d'adoration Bethel? Puis vient une étape importante, peut-être on peut afficher ça. Ôtez les dieux étrangers. C'est crucial. Jacob avait compris qu'il ne pourrait pas aller à Bethel avec toutes les idoles en soute, avec toutes les idoles dans leurs attelages. Toi aussi, tu ne peux pas aller au culte le dimanche matin et attendre une grande révélation de Dieu en ayant encore toutes les idoles quelque part dans ton cœur, dans ta tête, dans tes attelages. C'est là peut-être une des raisons pourquoi nous avons peu de vision, peu de révélation de Dieu. Même si nous crions et si nous cherchons et si nous disons « Seigneur, on a besoin ». Très concrètement, Jacob, il demande ici, je pense qu'il fait vraiment un face-à-face avec les siens. Là, il leur dit « Voilà, il faut s'en débarrasser ». Il leur demande de se purifier et de déposer les idoles. Ça s'est fait en un jour, mes amis. Ils n'ont pas passé des mois à discuter. Faut-il le faire et qu'est-ce qu'il faut faire ou combien je dois donner ou je peux encore garder un truc. En un jour, c'était quand même radical et ça s'est fait très concrètement. Pour nous, c'est pareil comme une équation, mes amis. Je dirais, aujourd'hui, je vous invite à abandonner vos idoles, à abandonner nos idoles communes. Commun. Nous devons nous séparer de nos fausses sécurités. Nous devons rompre avec certaines alliances et mauvais engagements. Nous disons alors, Jésus seul est Seigneur. Jésus seul sauve. Est-ce que c'est juste? Jésus seul, vous pouvez le dire, Jésus seul, lui seul. J'ai plus besoin de ses appuis. Cet été, j'étais en vacances en Istrie, peut-être on pourrait montrer les images. C'est magnifique, c'est joli, c'est touristique, c'est sur la mer Adriatique, ça fait partie de la Slovénie actuelle, c'est la petite ville de Isola. Isola, ça faisait partie de l'Italie pendant très longtemps, et on parle encore italien aussi. Et puis on est allé dans cette église-là, l'église San Mauro. Et en fait, bon, c'est le pays de ma femme. Ma femme, elle est native de Slovénie, et on peut y aller chaque année. Donc, je connais bien le coin, et quasiment chaque année, j'y vais aussi dans cette église-là. C'est pas parce que elle me plaît maintenant excessivement, c'est pas parce que je suis adepte de l'architecture de cette église. Non, j'y vais parce qu'il fait un peu frais dedans, et puis on trouve le calme. Enfin, voilà, j'y vais en touriste. Mais cette année-là, j'ai encore découvert quelque chose que j'ai jamais vu, parce que, ouais, comme j'y vais tous les ans, ça vous arrive des fois d'aller dans un lieu, vous y êtes X fois, et puis un jour, vous découvrez un détail que vous n'avez jamais vu. Cette année, j'ai découvert une plaquette, une plaque. En italien, c'est écrit « A Gesù, re dei cuori e del mondo ». Vous comprenez ?« À Jésus, le roi des cœurs et du monde ». Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la date. Quand est-ce que ça a été fait ? 1942. Ils ont reconsacré leur église, ou je pense que c'était la rénovation de l'église, je ne sais plus exactement, mais 1942, l'Italie, ça faisait partie de l'Italie nazie, enfin Mussolini, l'Italie fasciste, c'était vraiment au moment de l'apogée de la puissance nazie et fasciste. Et de dire, à ce moment-là de l'histoire, en présence des autorités, Jésus est roi des cœurs et du monde. Ça ne devait pas plaire à tous, vous pouvez être sûr. Ils l'ont fait, et ça m'a touché de lire cette plaquette. Je me dis, mais voilà, ils ont déclaré qui est Seigneur. Donc il y a des faux dieux aussi sur le plan ecclésial. Je vais quand même être un peu plus concret. Si on dit qu'il faut se défaire des idoles, quelles sont ces choses qui peuvent supplanter Dieu dans une église? Je pense que l'église est parfois dirigée par des programmes, par des traditions. Parfois aussi l'église est dirigée plus par des personnalités. Que si telle ou telle personne n'est pas là, ça ne fonctionne pas. On pense que oui, il faut que le pasteur soit là. Mais tant bien s'il est là. J'aime beaucoup Stéphane, vous aussi. Mais des fois, nous avons fait des hommes, des pasteurs, ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne doivent pas être. J'ai souvent vu aussi dans mon ministère pastoral, quand ça va bien, ben on élève le pasteur presque jusqu'aux cieux. Et quand ça ne va pas, ben c'est le pasteur qui est responsable de tout ce qui ne va pas. C'est que c'est un signe que l'Église est clairement, elle gravite autour d'une personne. Elle risque peut-être même d'être dans un culte de personne, culte de la personne. Des fois aussi les finances qui prennent une place tellement importante, ça devient un dieu les finances. Que l'on se lance encore dans des projets juste en regardant, est-ce que les finances jouent? Je ne dis pas qu'il faut être fou ou casse-cou dans les projections qu'on fait, mais si les finances déterminent notre foi et qu'elles déterminent ce que nous allons faire ou pas faire, ça ne fonctionnera pas. Combien de fois le Seigneur m'a défié et m'a dit « Ne regarde maintenant pas les finances de l'Église, ne regarde pas tes finances, mais fais-moi confiance. » Des fois, ce sont les bâtiments qui dirigent les Églises, qui façonnent même les Églises. Peut-être c'est aussi, je sais que vous avez rénové cette magnifique chapelle avec beaucoup d'efforts. Nous aussi, à plein palais, nous avons une Église, nous avons un bâtiment, et je sais que parfois c'est une bénédiction, mais que parfois aussi ça alourdit considérablement, et ça peut devenir une ça peut devenir vraiment un frein pour l'avancement de l'évangile de l'Église. Un peu comme Churchill qui disait, d'abord nous avons façonné les bâtiments, mais ensuite les bâtiments nous ont façonnés. Sur un plan personnel, peut-être aussi, quelles sont les idoles un peu cachées aussi. Beaucoup de choses peuvent nous séparer, en fait, de Dieu, ou au moins nous éloigner de lui. Qu'est-ce qui t'éloigne de toi en ce moment de Dieu? Ça peut être des affaires, ton business, des choses que tu considères comme très, très, très importantes. Parfois, c'est des addictions que nous cultivons en secret. Peut-être un plaisir, quelque chose qui est bon à la base, quelque chose que Dieu nous a donné pour en jouir, pour quelque chose de bon peut devenir une addiction et ça devient un lien. Et ça prend du temps, ça prend toute notre énergie. Nous sommes focalisés là-dessus, ça devient un Dieu. Parfois, c'est des relations. J'ai parlé des engagements tout à l'heure, des engagements que tu as pris ou des alliances. Parfois, une des plus grandes souffrances en tant que pasteur pour moi, c'est de voir qu'un chrétien qui est bien engagé, qui est vraiment qui brûle pour le Seigneur, il se lie avec une personne, il se marie ou elle se marie avec quelqu'un qui ne partage pas cette foi. Ce sont des relations, des amours. Vous connaissez cette chanson qui tourne des fois à la radio, « Ciao Bella, ciao Bella, ciao, ciao, ciao ». Vous connaissez? Mes enfants, ils chantent ça souvent. Et puis, c'est vrai, il y a quelque chose de sincère là-dedans quand même. Moi, j'ai dû dire un jour au revoir à une personne que j'aimais beaucoup. C'était le moment où j'allais me consacrer pour être pasteur. J'étais parti pour 4 années de formation à un institut biblique. Mais j'avais encore une petite amie, j'avais une personne bien gentille. C'est pas du tout la question que ces personnes soient gentilles ou pas gentilles, qu'elles soient jolies ou pas jolies, ou qu'elles soient agréables. C'était tout simplement, il est arrivé, après peu de temps, ce moment où le Seigneur m'a dit, tu peux pas avancer et en même temps regarder en arrière, tu peux pas avancer et en étant en alliance avec cette fille. Ciao Bella, ciao. Salut, j'ai dû vraiment me séparer. Et je pense que c'était une bénédiction à la fois pour elle et pour moi. Je le dis avec le recul parce que je sais ce que cette fille est devenue et je vois aussi ce qui est arrivé avec moi et avec ma famille. Je remercie le Seigneur d'avoir pris cette décision un jour précis. Et regardez au verset 4, ils ont apporté même leur boucle d'oreille. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est intéressant pourquoi on parle encore de boucle d'oreille. On dirait que tout ce qu'ils ont pillé chez les Sichémites l'autre jour, ils ont dû le laisser là. Leurs bijoux, l'or, l'argent, tout ce qu'ils pensaient, ah, ça a de la valeur, ça a de l'attrait, ils ont dû le laisser. C'est une image pour tout ce qui est accessoire. Pardon, mesdames qui aimaient les boucles d'oreilles, mais c'est pas que les dames. C'est une image pour tout ce qui est accessoire dans votre vie. Tu peux être belle avec des boucles d'oreilles, mais tu peux aussi l'être sans. C'est pas ça qui fait de toi qui tu es. Et avec beaucoup de choses, c'est ainsi. Accessoire. Qu'est-ce qui est accessoire dans ta vie? De quoi n'as-tu pas vraiment absolument besoin? Dieu te le dit aujourd'hui. Laisse ces choses. Tu n'as plus besoin de ça. Il faut que ça reste à Sichem. Je pense à Abraham aussi qui un jour qui faisait face au roi de Sodome. Peut-être vous situez. Genèse chapitre 19. Et le roi de Sodome lui fait des propositions, lui dit, tiens, je te donne le butin, parce qu'ils avaient une bataille, et puis je te donne le butin, et toi tu me rends les gens. Vous savez ce que Abraham lui a dit? Je ne prendrai même pas un lacet du roi de Sodome pour qu'on ne me dise pas que C'est lui qui m'a enrichi. Il voulait la dépendance de Dieu. Il disait cela face à un certain roi, Melchizedek, à qui il a donné la dîme en même temps. C'est intéressant de voir un peu dans quel contexte les choses se passent. Il donne la dîme tout en refusant de prendre le cadeau de quelqu'un d'autre. Intéressant. Juste, je ferme la parenthèse. Et oui, voyez ce qui se fait après. C'est ça. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes. Les gens de ces villes ont commencé à craindre Dieu. Ils ont dit, mais on peut pas poursuivre Jacob. Dieu est avec lui. Regardez, je ne vais pas faire très long là-dessus, mais la sanctification de ces quelques personnes a eu un impact sur des villes, sur des centaines et des milliers de personnes. Notre sanctification, nous sommes un groupe ici, notre sanctification, si nous abandonnons nos idoles ce matin, nos idoles cachées, je ne vous demanderai pas tout à l'heure de venir ici avec vos boucles d'oreilles ou avec vos accessoires en bijoux. Ce que je vous demanderai, ce que je vous inviterai de faire, peut-être on aura un petit moment de le faire, de faire ça avec un chant ou quelque chose, de dire on dépose les idoles. Peut-être qu'il y a des liens aussi qui doivent être rompus par la prière. Peut-être qu'il y a des anciens qui sont là, qui peuvent prier avec telle ou telle personne pour que ces idoles soient, qu'ils laissent ça. Mais ça aura un impact autour de vous. Tu ne craindras plus les ennemis. Tu ne craindras plus les adversaires. C'est vrai, j'avais posé la question, est-ce que Dieu est terrible? Est-ce qu'il est terrible, Dieu? Un Dieu de terreur? J'ai juste marqué cette phrase. Il fait bon d'avoir Dieu comme ami, mais il est terrible de l'avoir en adversaire. Si dans ta vie, tu luttes contre Dieu, tu fais consciemment ce que tu sais qui n'est pas bon à ses yeux, alors tu vivras avec l'adversité de Dieu. Je m'arrête là. Et pour finir, regardons encore, ils arrivent à Bethel. Ils arrivent sans boucle d'oreille, sans accessoires, sans sécurité, mais juste avec un cœur pur. Juste le cœur en adoration. Et voyez ce qui arrive. Dieu lui apparaît à nouveau, c'est écrit, et il le bénit. Nous qui disons on a besoin d'une révélation de Dieu, nous qui souffrons parce que où est Dieu? Là, ça se fait. Conclusion, à travers ces quelques versets, nous avons vu qu'il y a un certain cheminement. J'appellerais ça l'itinéraire de la grâce. Je retrouve dans ce texte, dans cette histoire de l'Ancien Testament, je retrouve Christ, je vois vraiment la grâce que je trouve d'une façon identique dans le Nouveau Testament. Je vois un Dieu de grâce qui dit, vas-y, lève-toi maintenant, tu as fait le mal, tu as péché, mais je te permets un nouveau départ. Grâce de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui conteste tout le temps avec nous, un Dieu qui reste en colère. Non, il donne un nouveau départ. Dieu se révèle aussi. Nous avons dans le Nouveau Testament la révélation la plus puissante de Dieu, celle en Christ. Puis il y a aussi ce « sépare-toi, lève-toi ». Quand Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit « mais laissez les bateaux, laissez, suivez-moi, fais le tri ». Il y a tout ça aussi dans le Nouveau Testament. Et puis, quand ils ont fait le tri, quand ils se sont sanctifiés, pour le dire dans le langage du Nouveau Testament, ben Dieu se révèle encore plus. Dieu se révèle encore, et d'une façon nouvelle, avec une présence qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est un itinéraire de la grâce de Dieu à travers un texte de l'Ancien Testament.